Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici les titres. L'ONIC marque ses 10 ans par des opérations gratuites de dépistage de l'hypertension et du diabète. À Mbujimayi, au Kasaï oriental, tout comme à Kindu, dans la province du Maniema, ces professionnels de santé prélèvent volontairement et gratuitement la tension artérielle et la glycémie ce 31 juillet. Nous irons ensuite au Nord Kivu, au cœur de la forêt de Walikale, là où tout semblait perdu. Les casques bleus jordaniens de la MONUSCO ont réussi à sauver 2 vies 6 jours après le crash d'un avion cargo de la compagnie Tracep Congo Aviation. Lutte contre la malnutrition dans les Maniema, le PADRIR met la main dans la pâte. Ce programme du gouvernement congolais sensibilise la communauté à faire des jardins potagers pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Pour en parler, nous recevons Mathieu Kamuleta, il est coordonnateur provincial du PADRIR Maniema. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. 8 sites de prélèvement gratuits de la tension artérielle et de la glycémie sont ouverts ce vendredi à travers la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental. Ils servent au dépistage précoce de l'hypertension et du diabète, deux maladies silencieuses en nette progression dans la province du Kasaï oriental. Cette action de proximité est initiée par l'Ordre national des infirmiers du Congo l'ONIC qui célèbre ses 10 ans d'existence en République démocratique du Congo sous le thème « Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies, mais aussi des économies ». Dans le même registre, l'Ordre des infirmiers du Maniema prélève volontairement et gratuitement la tension artérielle et la glycémie ce 31 juillet. Ils sont positionnés dans plusieurs points chauds de la ville pour rendre ces services à la communauté. C'est notamment dans les marchés, au gouvernorat, mosquée centrale et à l'hôpital de l'aéroport. Pour le président provincial de l'Ordre des infirmiers, cette activité c'est pour marquer d'un cachet spécial le 10e anniversaire de la promulgation de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des médecins ce 31 juillet. Florence Kizalunga, reportage.
Ces prélèvements volontaires et gratuits de la tension artérielle et de la glycémie permet à toute la population de connaître son taux de glycémie et sa tension artérielle. Dans les hôpitaux, ces examens sont d'habitude payants, mais gratuits en ces jours. Docteur Kong Mani les confirme.
La tension, on la fait gratuitement, mais la glycémie, nous la faisons payer à 5000 francs parce que nous devons nous procurer des bandelettes qu'on utilise. Par jour, nous avons 10 à 20 personnes qui viennent et nous comprenons que c'est un problème dans la communauté.
Les bénéficiaires expriment leur gratitude et souhaitent que cette opération se poursuive.
Je remercie les infirmiers parce que cet examen à l'hôpital, on paye ici, on a fait gratuitement. Nous demandons les infirmiers de continuer ainsi.
Pour le président provincial de l'Ordre des infirmiers, ce geste permet à la population de bénéficier toujours de leurs services. Dieudonné Barouani.
Cette activité, nous le faisons aujourd'hui seulement. C'est une activité qui coûte. Mais aujourd'hui, comme nous sommes fiers de notre 10e anniversaire, nous nous sacrifions, bien que le gouvernement ne se sacrifie pas pour nous. Notre souci est que la population connaisse sa tension artérielle et sa glycémie.
Signalons que cette activité n'était organisée que pour une seule journée. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, les habitants de Kibirizi entrevoient enfin une issue à la pénurie d'eau potable qui frappe leur cité depuis près de 3 mois. Située dans la chefferie de Buito en territoire de Rutshuru, cette localité a bénéficié jeudi d'un important lot d'équipements remis par l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF. Une intervention accueillie avec soulagement par la communauté locale. Bernadette Nyangi pour le détail.
L'accès à l'eau potable reste un défi majeur à Kibirizi, a indiqué Médecins Sans Frontières, MSF, lors de la remise du matériel au comité local d'adduction d'eau le 30 juillet 2026. Cette assistance accordée à la suite des alertes du comité comprend 22 rouleaux de tuyaux de 100 mètres chacun, 24 raccords à compression et un raccord réducteur. Elle vise à améliorer l'approvisionnement en eau et à prévenir les maladies hydriques. Depuis mai 2026, Kibirizi est confrontée à une grave pénurie d'eau. Plusieurs bornes fontaines aménagées par Merci Corps étant hors service en raison de l'assèchement des sources ou de la dégradation des canalisations. Selon le médecin-chef de la zone de santé de Kibirizi, le docteur Lambert Balikoucha, cet appui bénéficiera à la population ainsi qu'aux structures de santé dans un contexte marqué notamment par l'apparition d'au moins 3 cas de choléra à l'hôpital général de référence de Kibirizi.
Une opération aérienne complexe menée par les casques bleus de la MONUSCO a permis de secourir 2 survivants d'un crash d'avion survenu dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Après plusieurs jours d'incertitude, les rescapés ont été évacués tandis que la dépouille du copilote décédé a également été rapatriée. Une mission à haut risque qui met en lumière les difficultés des opérations de secours dans les zones les plus enclavées de l'Est et de la RDC. Reportage de Jean-Claude Lokidile, rendu par Jody Janiel Kanchama.
Au cœur de la forêt de Walikale, là où tout semblait perdu, les casques bleus jordaniens de la MONUSCO ont réussi à sauver 2 vies. 6 jours après le crash d'un avion cargo de la compagnie Tracep Congo Aviation, les soldats de la paix ont mené, ce jeudi 30 juillet, une opération humanitaire à haut risque. Malgré une météo difficile et des coordonnées imprécises, ils ont localisé 2 survivants, évacués par hélicoptère vers Beni pour une prise en charge médicale. La mission a également permis de rapatrier la dépouille du copilote décédé. Une intervention saluée par le directeur général des Tracep Congo Aviation, Olivier Upenji Chombe. Nous ne savions pas comment ramener le corps de cette zone forestière sans route ni sentier et où opèrent des groupes armés. Du côté de la famille du copilote, c'est le soulagement. Ses proches remercient la MONUSCO d'avoir permis le rapatriement de la dépouille, mettant fin à plusieurs jours d'incertitude et d'attente et leur donnant enfin la possibilité d'organiser des obsèques dignes. Selon la compagnie aérienne, l'intervention de la MONUSCO constituait la seule option pour accéder à cette zone forestière enclavée, dépourvue des routes et marquée par l'insécurité.
MONUSCO encore, la mission onusienne clarifie sa position après le retour en RDC de 39 personnes renvoyées par les autorités rwandaises. Dans un communiqué publié ce jeudi, la mission onusienne précise que ces personnes avaient été auparavant rapatriées au Rwanda dans le cadre de son programme de désarmement et de réintégration. Elle affirme n'avoir participé ni au transfert ni au retour de ces individus sur le territoire congolais. Les détails avec Ella Chembalo.
Conformément à son mandat du Conseil de sécurité, le programme DDRRR de la mission appuie les désarmements volontaires, la réinstallation et les rapatriements des combattants étrangers présents en RDC ainsi que de leurs personnes à charge. Avant tout rapatriement vers le Rwanda, la MONUSCO mène un processus approfondi de vérification en plusieurs étapes afin d'évaluer l'éligibilité des personnes concernées. Seules les personnes jugées éligibles sont inscrites sur une liste des rapatriements proposés qui est ensuite transmise à la commission rwandaise de démobilisation et de réintégration RDRC pour examen et approbation finale avant leur départ de la RDC. La MONUSCO demeure déterminée à préserver l'indépendance, l'intégrité et la transparence du processus DDRRR et continuera de travailler avec toutes les parties prenantes concernées dans la mise en œuvre de son mandat du Conseil de sécurité relatif au DDRRR.
La session ordinaire du conseil communal de Mbandaka a été ouverte jeudi 30 juillet 2026 et se tiendra jusqu'au 28 août prochain. Au cœur des débats, l'évaluation des travaux d'assainissement et d'hygiène environnementale conformément au plan d'aménagement de la commune adopté par la session précédente. Les détails avec Askin Zigbatayoro.
Selon le président du bureau du conseil communal, Gilor Ekonzo Ilengila, ce plan d'action porte sur l'aménagement des espaces publics, la gestion des marchés et l'installation des lampadaires pour l'éclairage public dans les 10 quartiers de la ville. L'objectif est de renforcer la gouvernance locale et d'assurer un meilleur contrôle de l'exécutif communal. D'après le conseil communal, le bourgmestre est tenu d'appliquer ce plan d'assainissement. Toutefois, sa mise en œuvre sur le terrain reste insuffisante. À l'ouverture de cette session, le président du conseil a par ailleurs remercié le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, pour sa décision d'attribuer au conseil communal le pouvoir de contrôler le bourgmestre. Ce dernier est nommé par ordonnance présidentielle tandis que les conseillers sont élus par le peuple. En clair, selon le témoignage de 9 conseillers communaux, le bourgmestre nommé par ordonnance présidentielle ne respecte pas les exigences liées au rôle du conseil communal. Ces remerciements concernent également la prise en charge salariale des conseillers communaux par le gouvernement central, des salaires qui n'étaient pas prévus dans le budget de l'État. Interrogé sur l'actualité politique nationale, Guilore Ekonzo Ilingila s'est dit favorable à une révision ou à un changement de la Constitution, tout en insistant sur la nécessité de soumettre cette réforme au vote du peuple par référendum.
Dans un tout autre chapitre, le trafic ferroviaire entre Matadi et Kinshasa reste suspendu sur plusieurs tronçons de la ligne. En cause, les dégâts provoqués par les fortes pluies qui se sont abattues sur Kinshasa en avril dernier. Selon Jean-Claude Ngoma Moussa, directeur du chemin de fer du Congo central, deux sites fortement endommagés, Alimete et Akimwenza, font actuellement l'objet des travaux de réhabilitation. Cette situation retarde le retour des trains voyageurs et marchandises, pourtant annoncés il y a quelques mois par l'ONATRA. Élise Kavira pour les détails.
Alors que la population du Congo central espérait retrouver les voyages en train entre Matadi et Kinshasa, les dégâts causés par les pluies diluviennes qui ont frappé la capitale congolaise en avril dernier continuent de retarder la reprise complète du trafic voyageurs et marchandises sur cette voie ferroviaire. Alimenté sur l'avenue Poids Lourd au niveau de la 17e rue, un ouvrage de drainage s'est effondré, fragilisant la voie ferrée. Des travaux sont en cours pour reconstruire cette infrastructure et permettre une meilleure évacuation des eaux. À Kimwenza également, le chemin de fer a été endommagé. Les équipes techniques y reconstruisent un système de drainage qui devra canaliser les eaux vers la rivière Lukaya et sécuriser durablement la voie. Selon Jean-Claude Ngoma Moussa, directeur du chemin de fer du Congo central, la reprise complète des trains voyageurs et marchandises dépend de l'achèvement de ces travaux de réhabilitation. Il rassure toutefois que les chantiers avancent à un bon rythme et que le retour à la normale ne devra plus tarder. En attendant, un trafic partiel est maintenu entre Matadi, Minkelo et Lukaya pour le transport des marchandises, notamment celles destinées aux cimenteries de la région. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Construire une maison devient un véritable défi à Kananga dans le Kasaï central. En quelques mois, le prix de la brique cuite a fortement augmenté. Vendue autrefois à 100 francs congolais, elle coûte aujourd'hui entre 200 et 300 francs congolais. Selon les vendeurs, cette situation est consécutive à l'augmentation des coûts de production. Cette hausse de la brique cuite fait grimper les coûts des chantiers. Autre conséquence, beaucoup de familles ralentissent les travaux de construction de leur habitation, tandis que d'autres les abandonnent carrément. Le point avec André Katendenga Lamouloumé.
À la carrière des Nanza, le pile des briques s'aligne, mais les clients se font de plus en plus rares. En cause, la hausse du prix des briques cuites. Les producteurs expliquent que leurs coûts de production ont fortement augmenté. Autrefois, ils utilisaient du bois mort pour la cuisson. Aujourd'hui, ils ont recours à la braise, devenue plus coûteuse. À cela s'ajoutent les prix du transport et celui de la main d'œuvre. Produire une brique coûte désormais plus cher. Pour couper un arbre, il faut payer les taxes du service de l'environnement qui sont élevées. Les transports coûtent aussi très cher. Voilà pourquoi nous avons opté pour la braise. Mais elle est chère et difficile à trouver. Face à cette situation, les particuliers revoient leurs projets. Certains construisent par petites étapes, d'autres attendent des jours meilleurs. Sur son chantier, Jean Bilolo peine à terminer les fondations. Son budget ne suffit plus.
La brique, c'est à 300 francs, mais avec les transports, nous pouvons aller jusqu'à 500 francs. L'achat du ciment aussi nous coûte, du sable aussi, et aussi les mentions.
Les maçons ressentent aussi les effets de cette hausse. Les chantiers se font moins nombreux, les travaux avancent lentement, les revenus baissent. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi. À la carrière des Nanza, les piles des briques.
Retour à Kinshasa avec cette inquiétude des horticulteurs. Entendez ceux-là même qui cultivent et entretiennent des plantes. Motif, les ventes de ces végétaux se font de plus en plus rares alors que ces artisans dévoués à la nature affirment leur métier très exigeant continue de subsister uniquement par passion. Il rappelle que cultiver et entretenir les fleurs ou les plantes naturelles demande un savoir-faire patient, une endurance face à la recherche des bonnes semences ainsi qu'une volonté de préserver une tradition artisanale. Derrière cette réalité, une question se pose: comment rapprocher l'offre et la demande afin que les fleurs et plantes naturelles deviennent un véritable vecteur de culture et de qualité de vie urbaine à Kinshasa? Reportage de Sephora Mpakachipuna.
Les fleurs et les plantes naturelles, symboles de la beauté et du bien-être, restent difficiles à s'approprier dans la capitale congolaise. Entre le modèle tel que le palmier, les pleureuses ou les voyageurs, ces différentes variétés possèdent chacune une particularité. Au-delà de l'aspect décoratif, certaines peuvent préserver des phénomènes naturels, comme la foudre ou repousser certains insectes. Rigen Kimvula, horticulteur, expose certaines difficultés auxquelles ils font face.
Ils trouvent que avoir un arbre ou aménager sa parcelle, il ne trouve pas l'importance. Il n'y aura pas qu'il ne manque de moyens. Il y aura que c'est la culture, c'est la notion qu'il n'avait pas. Nous n'avons pas un millier que l'État nous a donné, les horticulteurs, dans son ensemble, de pouvoir travailler. Nous n'avons pas ces liens.
De l'autre côté, certains quinois portés par les besoins d'embellir leurs espaces de vie précisent qu'ils ne savent toujours pas où s'en en procurer.
Je ne les fais pas souvent à cause du coût et parfois du manque de points de vue. Ils ne sont pas toujours nombreux dans certaines communes et certaines personnes qui ne savent même pas où trouver là où on en veut.
En somme, l'horticulture dans la capitale congolaise reste un secteur fragile et son développement dépend de la sensibilisation des citadins et d'une meilleure organisation du marché.
Actualité internationale.
Au moins 18 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'enclave de Ceuta, a annoncé le gouvernement espagnol. Le gouvernement local de Ceuta, la petite enclave espagnole située au nord du Maroc, tire la sonnette d'alarme. Plus de 1500 migrants sont arrivés par la mer cette semaine. Les centres d'accueil sont saturés. Les autorités locales ont demandé une intervention immédiate de Madrid alors que le gouvernement de Ceuta est débordé et n'est plus en capacité de répondre à l'afflux des migrants par la mer. L'Espagne va envoyer des soldats pour garantir la sécurité.
L'invité.
Lutte contre la malnutrition dans les Maniema, le Padrir met la main dans la pâte. Ce programme du gouvernement congolais sensibilise la communauté à faire des jardins potagers pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Pour en parler, nous recevons Mathieu Kamuleta, il est coordonnateur provincial du Padrir Maniema. Il s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Mathieu Kamuleta, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Tous on connaît que Padrir est dans les infrastructures et l'agriculture. Aujourd'hui, vous basculez vers la nutrition. Quel lien existe-t-il entre Padrir et la nutrition?
Oui, merci beaucoup pour la question. Ce n'est pas que nous avons basculé. On reste toujours dans les volets agricoles et infrastructures. Mais il y a une enquête qui a été menée. L'enquête nutritionnelle a relevé qu'il y a une malnutrition très élevée dans la province du Maniema. Et malheureusement, c'est surtout aux alentour des zones minières. C'est ce qui nous étonne, là où les gens font des minéraux. Ce sont eux qui mangent mal, contrairement aux zones où ils sont plus dans l'agriculture.
C'est ce qui vous pousse à former les nutritionnistes aujourd'hui de la province du Maniema?
Effectivement, nous organisons cette formation appelée la formation des formateurs. Ces nutritionnistes formés seront déployés sur le terrain et là, à leur tour, ils vont aussi former les relais communautaires de base et former d'autres équipes du terrain jusqu'à ce que c'est une formation en cascade, jusqu'à ce qu'on va atteindre le ménage.
Alors, la lutte contre la malnutrition dans le pays, tout comme dans la province, ne nécessite pas seulement la formation des cadres sanitaires et communautaires, mais quel est autre appui des Padrir en faveur des communautés pour lutter contre la malnutrition en province?
Effectivement, comme vous venez de le dire, la lutte, notre approche de combat contre la malnutrition est diversifiée ou bien multiforme. Nous allons dans la formation, la sensibilisation pour que les gens soient à mesure de comprendre et de bien constituer leur ration alimentaire. Mais s'ils n'ont pas d'aliments, comment ils vont constituer cette ration alimentaire? C'est ainsi que nous évoluons avec la distribution de la semence de riz, de maïs, de soja surtout, d'arachide et les boutures de manioc. Nous évoluons également dans la distribution de la semence des produits maraîchers. C'est ce qui est souvent rare, c'est-à-dire les légumes. Nous sommes dans une approche de chaque chaque ménage avec un jardin potager, les jardins de cases. L'enquête a montré que les gens consomment plus de 60 à 70%. Ils consomment sur les 7 jours les foufou avec les pondou, ce qui est inadmissible. Alors, c'est ainsi qu'on va les renforcer, pas seulement avec la semence maraîchère. Nous sommes aussi dans la pisciculture. Nous allons intensifier la pisciculture pour qu'il y ait abondance de poissons. Il y a une étude sur les closeries et stations d'alevinage. Tout ça, c'est dans le souci qu'il y ait suffisamment d'alevins, parce que la plupart des temps que vous constatez dans la ville, il n'y a rien, c'est de l'eau. Quelqu'un peut mettre pour un état de 0,5 hectare, il met 10 poissons et il attend que ces 10 poissons se multiplient 4 ou 5 fois, ce qui est inadmissible. Maintenant, nous sommes en train de nous battre pour que les closeries soient là, les stations d'alevinage modernes soient aussi opérationnelles pour que la population ait accès à ces intrants d'une grande qualité. Et nous sommes également dans l'élevage, et y compris aussi des lapins dans d'autres zones où les gens préfèrent cette viande. Le but, c'est quoi? Ces porcs, on ne va pas les donner directement au ménage. On va les donner à des groupes, à des coopératives ou à des associations. Quand ça commence, quand au moment de la reproduction, ils vont se partager les porcelains ou ils vont se partager les poussins, ainsi de suite.
Autant donné que les projets Padrir existent, vous distribuez les semences, tout ce que vous avez dit là, c'est-à-dire l'impact n'est pas encore considérable au sein de la communauté.
Bon, là, c'est discutable. Il est vrai que le projet n'a pas encore atteint l'impact souhaité, mais nous ne sommes plus là où nous étions. Quand vous allez, je vais vous donner un exemple élémentaire, quand vous circulez dans toute la ville de Kindu, il y a une variété d'arachide. Nous connaissons, c'est la G17, que les ménages appellent Mousalazal, mais c'est Padrir qui a introduit cette variété. Elle a concurrencé toutes les variétés, elle a même chassé toutes les variétés d'arachide qui étaient là. Et ça augmente la production, ça augmente les revenus des ménages, parce que toutes les variétés d'arachide qui circulaient dans la province de Maniema étaient déjà obsolètes et dégénérées. Mais aujourd'hui, avec la variété appelée Mousalazal, bon, je ne sais pas comment la population a trouvé ce nom, mais c'est la variété G17, introduite par Padrir, qui est en vague et qui est dans chaque quartier, dans chaque coin de la rue de Kindu. Si vous voulez manger l'arachide de bouche, c'est G17. C'est Padrir qui a introduit cette variété. Donc l'impact est là et nous venons de voir sur le plan des infrastructures. Nous sommes déjà tout près de Kayuyu. Maintenant, les choses évoluent plus ou moins bien. Il y a les sources qui sont en réhabilitation, plus de 30 sources. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Le Maniema aura pour la première fois sa propre station INERA opérationnelle. En bref, je dirais le souci du projet Padrir est d'accompagner la communauté.
Mathieu Kamuleta, merci.
Merci beaucoup.
C'était notre invité Mathieu Kamuleta. Il s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est ce qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée préparé pour vous par Jean-Désiré Kanyama et Lievin Mbwingavubu. La mise en onde assurée par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.